Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 24 mars 2026. Eh bien, un sommaire un petit peu à l'accoutumée de ce qu'on fait ici dans ces journaux, à savoir une revue de presse où on va parler, entre autres, eh bien, encore des frasques de l'extrême droite. Suite eh bien, justement au deuxième tour des municipales, hein, qui ont marqué notamment une percée assez certaine du RN dans pas mal de petites villes de France et aussi quelques grandes villes. On va parler pollution plastique avec le scandale des eaux de chez Nestlé Waters et un procès qui s'ouvrait hier concernant notamment des décharges sauvages autour de Vittel. Puisqu'on est dans l'enfouissement de saloperies dans la terre, on va parler de Cigéo, le projet Cigéo autour de Bure d'enfouissement de déchets radioactifs qui reprend visiblement un petit peu du poil de la bête avec l'expulsion d'un lieu cher aux militants. On va parler de forage possible aussi en Lorraine, puisque de l'hydrogène naturel vient d'y être détecté. Et puis de Total Energy aux États-Unis. Enfin bref, voilà, on va pas mal parler d'énergie, c'est marrant, je sais pas, je crois que c'est la période. Avant tout cela, donc, un petit... Deux histoires racontées et relayées par le média en ligne Contre-Attaque, qui vient rappeler aussi bah justement que l'extrême droite est principale vectrice de violence, notamment dans la rue, puisque c'est à Nîmes et à Nice que ces deux faits se sont passés, hein, deux attaques fascistes, coup sur coup, contre des militants de gauche. La première, eh bien, on est à Nice, donc le lundi 23 mars, hier, un jour après la victoire du RN dans cette ville de la Côte d'Azur. Pour dénoncer donc la victoire d'Éric Ciotti à la tête de la mairie de Nice, eh bien la CGT Spectacle organisait un rassemblement antifasciste sur la place Saint-François. Tout s'y passait bien, environ 200 personnes sur place, mais les participants ont remarqué des individus cagoulés qui rôdaient autour de la place. Eh bien, il s'agissait de néo-nazis qui attendaient sagement la dispersion de la foule pour tendre des embuscades à des petits groupes. À la fin du rassemblement, donc, deux groupes de ces militants CGT qui étaient sur place quittant les lieux se retrouvent bien attaqués par une vingtaine d'individus d'extrême droite. De véritables lynchages ont lieu avec des coups à la tête, aux côtes et des tabassages au sol. Les militants sont pourchassés ensuite dans les rues. Certains ont réussi à se réfugier d'ailleurs dans un snack, selon Nice Matin, hein. Mais ils ont été rattrapés par les agresseurs qui veulent continuer à les tabasser à coups de chaise. Une vidéo d'ailleurs montre cet épisode, hein. Aucune interpellation pourtant n'a été rapportée de la part de la police. Les commandos ont donc visiblement agi en toute impunité au cœur de la ville d'extrême droite, hein, une des villes où il y a le plus de caméras quand même en France. Voilà, la CGT estimait donc que la victoire de Ciotti constituait une alerte grave pour les libertés publiques, les droits sociaux et l'avenir du secteur culturel. C'était pour cela qu'ils s'étaient rassemblés. Eh bien, en moins de 24 heures, les faits lui ont donné raison. À Nîmes, ce sont des militants communistes qui ont été, eux, tabassés. À Nîmes, vous le savez sûrement, pour ces municipales, une triangulaire opposait donc un candidat communiste à deux candidats de droite extrême et d'extrême droite. Eh bien, c'est le communiste, hein, qui a gagné, Vincent Bouget. Plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais une information inquiétante a été révélée hier matin, à savoir que quelques minutes avant la fin de la campagne, donc c'était le vendredi 20 mars, plusieurs militants, justement, du PC avaient été tabassés par des partisans du candidat de la droite radicale, Franck Proust. Mais explique le journal L'Humanité, hein, qui a révélé les faits, eh bien, ceux-ci n'ont été révélés que le lundi, afin de ne pas troubler la séquence électorale. Ils auraient pu s'en appuyer, ça aurait fait du remous, mais non, ils ont préféré en parler donc seulement hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était environ 23h donc, sur Nîmes, hein, quand les couleurs d'affiche donc, pour le candidat communiste croisent la route de militants de droite qui veulent arracher leurs affiches. Leur collage de gauche, les derniers donc, appellent du renfort. Rapidement, deux scooters et trois voitures arrivent. avec à leur bord une dizaine de personnes. Enfin, c'est pas les commandos, pardon, je me suis trompé, c'est pas les militants de gauche, c'est les militants de droite qui veulent donc empêcher le collage, qu'appellent à la rescousse. Donc deux scooters et trois voitures qui déboulent, avec à leur bord donc une dizaine de personnes, un véritable commando préparé à la violence. D'ailleurs, à noter qu'une de ces voitures, hein, qui arrivait pour frapper les couleurs communistes, était siglée du club de handball de la ville. Est-ce que c'était un prêt de la mairie? On ne sait pas. En tout cas, les fascistes, appelons-les comme ça, attrapent un militant du Parti communiste, le jettent sur le capot d'une voiture, l'ont frappé au sol à coups de pied et de poing. Lui s'en sortira avec de graves blessures, hein, les os du visage et du nez cassés, des contusions sur d'autres parties du corps. La deuxième personne qui était présente sur place ont expliqué avoir reçu des coups de pied au sol. Lui se retrouve avec des côtes et une dent cassée, l'oreille interne touchée, il a des vertiges. Une vidéo d'ailleurs prise par un automobiliste qui a été visionnée par le journal L'Humanité confirme bien la version. Après ce passage à tabac, le commando a arraché donc finalement les affiches du Parti communiste français avant de s'enfuir. Le bilan est donc lourd du côté médical, hein, des incapacités totales de travail de 15 jours pour l'un, 10 jours pour l'autre. Deux autres personnes présentes ont été bousculées lors de cette attaque. Pour le responsable donc, de la section du PCF local, eh bien, ses camarades sont tombés sur la jeunesse dorée qui faisait campagne pour la droite. Cela aurait pu tourner bien mal. Donc visiblement, ce n'était même plus l'extrême droite néo-nazie, hein, qui a commis ces violences, mais aussi donc, la droite classique, on va dire, qui se radicalise et qui passe à l'acte en commettant de graves agressions contre la gauche. Voilà, la question est posée par le journal Contre-Attaque. Les médias vont-ils traquer les responsables LR pour exiger qu'ils condamnent ce lynchage? Les vidéos vont-elles mener à la même surenchère médiatique que lors de l'agression qui a coûté la vie au jeune Quentin Derenc? Voilà, on ne saura pas, on verra dans les jours qui viennent. J'imagine qu'une enquête vient d'être lancée suite aux images donc révélées par le journal L'Humanité. Pollution, toujours le procès du groupe Nestlé Waters concernant une pollution liée à des décharges illégales de plastique dans les Vosges s'ouvrait hier devant la chambre correctionnelle donc du tribunal de Nancy. Ce sont des années de mobilisation citoyenne qui ont permis de mettre en lumière la réalité mais aussi l'ampleur de ces décharges sauvages opéré par le groupe Nestlé dans ce territoire, donc dans les Vosges, où la multinationale fait la pluie et le beau temps. C'est là qu'est implanté notamment le forage de l'eau de Vittel, hein, qui est la marque emblématique et de départ de Nestlé. Un procès devrait donc s'ouvrir c'était à partir d'hier, pour toute la semaine. Ça se passe donc, je vous le disais, au tribunal judiciaire de Nancy en Mortier-Moselle. L'enquête a duré 3 ans. Le dossier un dossier d'instruction qui lui pèse plus de 2000 pages. Il y a déjà eu 2 renvois, c'était en mai et en novembre dernier. Nestlé Waters est notamment poursuivi pour stockage et maintien illégal de déchets, donc des déchetteries non autorisées, quoi. Concernant d'ailleurs ces décharges sauvages, suite aux alertes de citoyens qui se promenaient dans les parages et ensuite au travail d'associations environnementales, elles ont été chiffrées, notamment sur le site de la commune de T sous Montfort. On est dans la campagne vosgienne, juste à côté de Vittel. Il y a environ le volume de 27 piscines olympiques de déchets stockés. Hein, c'est 100 000 mètres cubes d'ordures, dont 42 000 de plastique. Ça, c'est ce que l'enquête judiciaire a pu chiffrer. Le problème d'hier, eh bien, dès le démarrage, un vice de forme qui était mis en avant par les avocats de Nestlé, eh bien, a conduit le président du tribunal à prononcer l'annulation des résultats d'analyse du laboratoire qui avait été mandaté par le parquet, des analyses concernant les microplastiques, hein, qui se répandent dans l'environnement. Donc un peu coup de théâtre, hein, ce scénario, personne ne l'avait vu venir. Les avocats des parties civiles espéraient un renvoi, puisqu'ils avaient donc demandé un supplément d'informations, eux ils voulaient plus d'infos sur la pollution, mais en face, les avocats de Nestlé Waters, eux, demandaient l'annulation de la procédure. Suite à une suspension d'audience de plus de 4 heures, le président, donc Didier Castaldi, a finalement annoncé l'annulation du rapport d'analyse du laboratoire, qui s'appelle Westling, et donc l'annulation de l'intégralité des 2 rapports de l'EODD, ce qui est le cabinet conseil qui est mandaté par le parquet dans l'affaire. En résumé, donc l'annulation d'une énorme partie de la procédure et aussi des 2 principaux éléments à charge contre Nestlé Waters pour le parquet et les parties civiles. Alors l'avocate qui représente Nestlé se réjouissait de cette surprise même pour elle, hein, en concluant « il n'y a pas besoin d'analyse complémentaire, nos résultats concordent, il n'y a pas de pollution au microplastique ». Ça, c'est quand même assez fou d'annoncer cela. De leur côté, les partis civils, bah, vous l'imaginez, accusent le coup. Maître François Zinde, qui représente Vosges Nature Environnement et la commune de Saint-Ouen-les-Parets, assure qu'il reste des choses dans la procédure malgré tout pour cette semaine, notamment toutes les analyses de Nestlé, celles de 2024 qu'ils ont dissimulées, qui ont été perquisitionnées et qui n'ont pas fait l'objet d'annulation. Donc il y a quand même quelques chiffres à se mettre sous la dent. Nestlé tente de minimiser l'impact environnemental, mais on a suffisamment de preuves puisqu'il y a plusieurs infractions. Il parle aussi de la pollution des sols, de l'abandon des déchets. Tout cela est bref loin d'être fini, même si c'est quand même un gros coup dur pour cette accusation. D'ailleurs, la demande de supplément d'informations hein, demandée concernant la décharge la plus importante, celle de la commune donc de Saint-Ouen-les-Parets, elle reste en suspens. Il y aura peut-être plus d'informations là-dessus. Le président du tribunal ne l'en est fait pas rejeté. Et ça sera abordé pendant les débats et pourra donc encore faire l'objet d'un renvoi du procès si le président le décide. En attendant, l'audience est suspendue jusqu'à là, aujourd'hui, 13h30. Le temps d'enlever, justement, les centaines de pages de cette procédure, donc toutes les pièces annulées à cause de ce vice de forme auquel les différentes parties ne pourront plus faire allusion. C'est un peu dommage quand même. Je vous laisse aller regarder en détail si ça vous intéresse du côté juridique, pourquoi, justement, ces pièces ne peuvent pas être prises en compte. Dans ces analyses, en tout cas dans ces pièces, il y avait notamment des analyses qui démontraient une pollution massive aux microplastiques dans tous les sols autour justement de ces décharges sauvages. On reste dans l'enfouissement de déchets et on va parler de déchets radioactifs avec le projet Cigéo, dont on n'a pas parlé depuis un petit moment. Je vous resitue vite fait, on est à Bure, dans la Meuse, un projet pharaonique pour l'avenir de la filière nucléaire française, mais pas que, puisqu'on pourrait aussi y importer des déchets venus d'autres industries et les enterrer là-dedans. En tout cas, la justice vient d'autoriser l'expulsion sans délai de la gare de Luméville. C'est donc un coup dur, là aussi, pour les opposants à ce projet d'enfouissement de déchets radioactifs, donc qui s'appelle Cigéo, puisqu'hier, la juge d'expropriation autorisait l'expulsion sans délai de cette gare, qui est un lieu historique de la lutte contre la poubelle nucléaire. Cette décision a fait suite à l'audience qui a eu lieu le mercredi 11 février dernier, par rapport à cette expulsion, puisque c'est un squat donc. Un huissier doit passer dans les prochains jours, pour notifier la décision judiciaire. Et donc le recours à la force publique est par la suite également autorisé si les opposants refusent de quitter les lieux. Bah, c'est une expulsion de squat, quoi. Cette ancienne gare donc de Luméville, c'était la gare de la ligne Jessin-Sorcy, qui a été démontée dans les années 70-80. Elle est convoitée par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, car elle se situe justement sur le tracé de la future installation terminale embranchée, la ITE, ce qui est une voie ferrée qui sera censée acheminer justement les convois de déchets radioactifs jusqu'à leur lieu de stockage. Conscient de l'emplacement stratégique, c'est pour ça que les opposants au projet l'avaient... Ah non, ils l'avaient pas squatté, pardon, ils l'avaient acheté en 2007, carrément. Ils l'ont acheté, mais on les en expulse pour cause de projets, justement, d'intérêt général pour l'État. C'est un site qui fait 8 hectares, hein, avec deux bâtiments principaux, un quai et des cabanes, donc qui a depuis accueilli notamment des grands moments de la lutte antinucléaire dans la Meuse, à savoir en 2010, les Hippie Pest, un camp VMC en 2015... les rencontres rayonnantes en 2021, etc. Bref, c'est un peu le camp de base de cette lutte antinucléaire dans la Meuse, qu'ils ont donc acheté quand même avec une cotisation commune, j'imagine. La situation de la gare nous concerne toutes et tous. C'est un terrain qui a vu passer beaucoup d'événements symboliques dans la lutte contre Cigéo. Tout le monde a son petit bout d'histoire ici, résumé la porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Juliette Geoffroy, le jour de l'audience. La décision de la justice s'inscrit dans un contexte où le gouvernement entend bien mettre un coup d'accélérateur à ce projet. L'enquête publique, qui était initialement prévue à l'automne, va finalement se dérouler là, de la mi-mai à fin juin. C'est ce qu'a annoncé la préfète de la Haute-Marne. C'était ce 13 mars qu'elle a annoncé d'avancer les dates. Et aussi, autre fait marquant, en décembre 2025, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection jugeait globalement satisfaisante l'évaluation de sûreté de Cigéo. En revanche, la Commission nationale du débat public réclamait ce 4 mars à la même ASNR d'étudier aussi un entreposage de subsurface de longue durée pour des déchets de haute activité durant la phase pilote du projet. Bref, ça discute encore. Nous appelons toutes celles et ceux qui le souhaiteraient à venir dès maintenant pour soutenir l'occupation de la gare et sa défense. On réagit, les opposants. Vous l'aurez compris, ils n'ont pas envie de partir comme cela et donc ça risque effectivement de se finir comme une expulsion de squat. D'autres richesses sous la terre qui convoitent, que convoite le gouvernement français et le secteur de l'énergie. C'est en Lorraine que ça risque de se passer, puisque des forages viennent de confirmer la présence d'hydrogène naturel en Lorraine, et on parle de la plus grosse réserve du monde. C'est donc une première mondiale qui vient de sortir. C'est un forage à plus de 3600 mètres de profondeur, qui est à ce jour le plus profond du monde lui aussi, qui a permis de confirmer juste là, aujourd'hui, la présence importante d'hydrogène naturel dans le sous-sol de la Moselle. C'est la Française de l'énergie qui a fait ce communiqué. C'est l'entreprise qui mène justement les recherches de forage pour des hydrocarbures et autres ressources énergétiques dans le sous-sol français. Alors l'hydrogène, c'est justement pas un fossile, c'est un atout d'ampleur donc dans la transition énergétique, en tout cas dans la décarbonation de l'économie. Et c'est dans ce sens-là que l'État met un peu les bouchées doubles aussi dans ce secteur. On est à Pompierre, un petit village de 800 habitants, à environ 40 km à l'est de Metz. Et donc cet hiver a été érigée une plateforme de forage de 41 mètres de haut, qui est venue d'Autriche, et elle a donc réussi à creuser à 3655 mètres de profondeur très exactement. L'hydrogène naturel, alors comment est-ce qu'on le trouve justement sous-sol ? Eh bien c'est l'hydrogène dissous, on l'appelle aussi l'hydrogène blanc ou l'hydrogène natif. Il est donc présent naturellement dans les eaux souterraines du bassin lorrain. Ce sont des chercheurs qui ont découvert il y a 3 ans la possibilité de la plus grosse réserve d'hydrogène naturel du monde. Cette présence a été confirmée donc sur de nombreux intervalles, ils ont fait des petits poinçonnages, dans la continuité de la découverte qui avait été réalisée à Volkswiller. On était 6 km de là et c'était en 2023. Ils ont prélevé 58 échantillons au cours de ces derniers forages et donc l'entreprise FDE a pu localiser plusieurs zones de présence d'hydrogène naturel et ainsi avoir une cartographie un peu globale avec des données géologiques sur la zone pour mieux comprendre les mécanismes de formation et de migration de cette énergie bas carbone. Désormais, des travaux scientifiques avec l'appui du laboratoire Géoressources et de l'Université de Lorraine et du CNRS doivent donc se poursuivre dans le cadre de ce projet qui s'intitule Régalor 2 pour ressources gazières de Lorraine. Il faut pour les scientifiques encore mesurer les concentrations d'hydrogène et tester in situ des outils de séparation de l'eau et de l'hydrogène qui vont être développés, eux, en partenariat avec l'entreprise Solexpert et le laboratoire Géoressources, avec le soutien de Saint-Gobain. Bref, l'industrie tout entière en rang derrière cette nouvelle manne financière. Selon les estimations du CNRS, suite au précédent programme de recherche, qui s'appelait donc Régalor 1, le gisement lorrain, qui s'étend aussi d'ailleurs en partie sur la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, pourrait comporter environ 34 millions de tonnes d'hydrogène. D'autres travaux sont aussi en cours pour éventuellement de l'exploration sur d'autres puits d'évaluation suite à l'obtention par la même entreprise, la FDE, d'un permis exclusif de recherche qui va recouvrir plus de 300 communes de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. La superficie totale, c'est environ 2200 km². Voilà, à noter enfin que FDE lance également un programme d'évaluation du potentiel de ces permis sur une zone particulièrement prospective aux États-Unis et plus précisément dans l'état du Kansas. Voilà. Allez, de l'hydrogène maintenant à foutre dans les bagnoles, en tout cas tout sauf réduire nos consommations. Hein. C'est l'objectif, on vous dit, faut continuer. Faut continuer, mais visiblement, la décarbonation, c'est même pas ça qui fait rêver tout le monde, puisque justement, aux États-Unis, l'administration Trump paye l'entreprise française Total Energy pour renoncer à des champs d'éolien en mer. Le gouvernement américain, donc défavorable aux énergies renouvelables, va en effet verser 1 milliard de dollars à la multinationale française pour la rembourser de ses concessions qui avaient été signées sous la présidence de Joe Biden. C'est hier qu'on a appris ça au cours d'une conférence sur l'énergie à Houston, que le ministère de l'Intérieur américain annonçait donc annuler le contrat avec Total Energy, un contrat qui devait normalement conduire à la construction de 2 parcs éoliens au large de la côte est des États-Unis. notamment face à la Floride et la maison de Donald Trump. Est-ce que c'est pour ça ? On ne saura pas. Le géant français, donc Total, s'engage à investir la somme remboursée, c'est exactement 928 millions de dollars, dans des projets pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique et au Texas. Tout va bien. Avec cet accord inhabituel, hein, ce sont les mots utilisés par le New York Times, le groupe Total abandonne donc les deux concessions qu'il avait signées sous l'administration Biden pour des parcs éoliens situés à 90 km de la côte de Long Island et aussi à 35 km de celle de Caroline du Nord. Ces parcs éoliens, s'ils avaient été construits, auraient alimenté en électricité environ 1,5 million de foyers et de commerces. C'est un extraordinaire transfert d'argent du contribuable à destination d'une entreprise étrangère pour soutenir la production d'énergie fossile, l'un des facteurs principaux du changement climatique, commente le New York Times. Hein, donc cet argent investi par l'administration dans l'éolien qui va finalement repartir dans du pétrole et des hydrocarbures. Le ministre de l'Intérieur, donc actuel, Doug Burgum, justifiait cette décision sur le média très favorable à Trump, Fox News, en affirmant que l'éolien en mer était l'une des arnaques les plus chères, les moins fiables, les plus perturbantes pour l'environnement et les plus dépendantes aux subventions jamais imposées aux usagers et aux contribuables américains. Voilà donc comment on voit l'éolien en mer selon Trump. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, de son côté, a évoqué un choix pragmatique pour lui, dans la mesure où, selon lui, en effet, produire de l'éolien offshore aux États-Unis coûtait trop cher. Et il a précisé toutefois que l'entreprise ne renonçait pas à l'éolien ou au solaire terrestre sur le continent américain. Les investissements au Texas et dans le golfe du Mexique contribueront, dit-il, à fournir à l'Europe du gaz liquéfié naturel dont elle a largement besoin. Le Washington Post rappelle, lui, que Donald Trump fait campagne contre l'éolien offshore depuis plus d'une décennie, notamment depuis qu'il a perdu une bataille juridique autour de la construction d'un parc juste en face d'un de ses parcours de golf en Écosse. À l'époque, il avait expliqué son choix et sa bataille en disant que les turbines étaient moches, chères et dangereuses pour les animaux. Le président américain a aussi assuré d'ailleurs que les éoliennes donnaient le cancer. Au cours de son deuxième mandat, l'administration Trump a multiplié les obstacles pour l'éolien. L'an dernier, par exemple, 5 projets ont été annulés, 5 projets en cours, sur la côte est des États-Unis, mais la justice a retoqué cette annulation. L'annonce de ce lundi est donc le premier signe d'une nouvelle stratégie, eh bien, à savoir que le gouvernement fédéral préfère payer pour arrêter les parcs éoliens avant que leur construction n'ait commencé. Cathy Hochul, je sais pas comment on prononce, qui est gouverneure démocrate de l'État de New York et qui donc s'offusque de cette décision, dénonce un abus scandaleux des dollars du contribuable en apprenant l'annulation donc, de ce contrat. Des experts estiment, dit-elle, que les investissements dans les énergies renouvelables, y compris l'éolien et le solaire, peuvent protéger les pays de la volatilité des prix du pétrole, en particulier en temps de guerre. C'est ce que rapporte là le New York Times.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
Et oui, parce que rappelons-le, la guerre c'est mal, mais surtout parce que ça fait monter les prix du pétrole et du gaz. Allez, on va qu'à parler un petit peu de pouvoir d'achat, et notamment des plus pauvres, avec cet article publié dans les colonnes de Mediapart, et qui s'intéresse à un projet, donc en France, sur les prestations sociales, un projet de fusionner les prestations sociales, qui revient depuis des années, hein, qui est un peu un serpent de mer là, dans les différents gouvernements, notamment sous Macron, eh bien il est de nouveau à l'ordre du jour. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était une idée qui avait fait son chemin sous l'acronyme RUA à l'époque, RUA, donc Revenu Universel d'Activité. Eh bien, il est en train de ressusciter, après avoir été enterré plusieurs fois, sous le nom de, finalement, ça va s'appeler l'ASU, l'Allocation de Solidarité Unifiée. C'est un projet de loi de 8 articles qui prévoit donc, sous ce petit terme, d'harmoniser le calcul du montant des ressources, ce qui sera la base, finalement, pour octroyer les 3 allocations majeures du système social français, à savoir le RSA, la prime d'activité et les indemnités logement, les APL. Le montant de ces trois allocations sera donc, si ce projet aboutit, déterminé finalement à partir d'un calcul des ressources du foyer, du ménage, qui s'appelle le revenu social de référence. C'est un nouvel indicateur, devrait donc permettre pour les promoteurs du projet de construire une allocation de solidarité unifiée qui éviterait les effets de seuil et les décrochages le long de la courbe des revenus, en cas notamment d'augmentation du travail. C'est ce qu'explique le ministère du Travail, justement. Le revenu social de référence en question prendrait aussi en compte les aides qui sont distribuées par les collectivités locales, à condition de ne pas dépasser un seuil de ressources. En parallèle, dans les autres petits, dans les trouvailles de cette allocation de solidarité unifiée, dès 2027, il mettrait en place un compte social unique, le CSU. C'est un téléservice, donc encore un portail du gouvernement en ligne, donc qui permet à tout le monde de se retrouver, de retrouver exactement au même endroit l'ensemble des ressources du foyer. Chacun, chacune aurait ainsi accès à une information exacte, précise et personnalisée sur ses droits et non plus une simulation. Ça, c'est l'idée et c'est ce qu'explique donc l'entourage de Jean-Pierre Farandou. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est le ministre du Travail qui est donc chargé de et qui porte cette réforme des allocations. Les allocataires pourraient ainsi, par exemple, anticiper l'impact d'une hausse de revenus sur leur revenu total. Bon, en surface, tout cela s'apparente donc encore à une simple réforme technique, comme d'ailleurs il y en a déjà eu plusieurs ces dernières années. Mais sur le fond, eh bien, le projet comporte le risque de fragiliser encore une fois les plus pauvres. C'est en tout cas ce que pense notamment Delphine Rouillot, qui est la présidente du collectif Alerte, qui regroupe une quinzaine d'associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle s'inquiète de l'absence de débat public pour ce projet qui est, dit-elle, loin d'être anecdotique. Son analyse générale, c'est que c'est une réforme technocratique, à budget constant, dont les interlocuteurs avec qui elle a été confrontée sont incapables de décrire les conséquences concrètes sur le portefeuille des concernés dans ce jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on prend quelque part, on va le remettre ailleurs, donc il y en a forcément qui vont perdre. Il y a, dit-elle, une déconnexion puissante entre le récit politique fait autour de ce projet de loi et la réalité. Bon, c'est dur, effectivement, comme toujours dans le cas des prestations sociales, de savoir effectivement qui va gagner quoi, mais d'ores et déjà, l'étude d'impact, elle, montre que 20% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté déjà, eh bien, devraient voir leurs aides encore diminuer. Sophie Rigard, elle est chargée de plaidoyer pour le Secours catholique, et elle s'inquiète aussi du flou, justement, qui est maintenu par le gouvernement sur les détails de cette réforme. Le projet de loi acte l'architecture de l'ASU, donc de l'ASU, c'est-à-dire comment ça va fonctionner, mais le problème, c'est un gros problème, c'est que le projet de loi renvoie à des décrets ultérieurs la fixation justement de plein de paramètres essentiels, notamment la définition de ce fameux revenu social de référence, mais aussi les règles de prise en compte des ressources, les abattements qui seraient implicables, les modalités de calcul des droits, etc. Bref, on met en place un espèce de machine avec le site qui va bien et tout, mais il n'y a pas les pourcentages, les revenus, etc. Donc, aucun moyen pour tous ces gens qui travaillent sur le terrain de savoir exactement ce que ça va donner, même si le vent, en général, n'est pas trop à faire circuler plus d'argent chez les ultra-pauvres. Et pour elles, c'est entre autres une réforme cachée des APL, à viser de faire de ces APL une prestation incitative à la reprise d'activité, car oui, tout est tourné vers la reprise du travail, elle est encouragée, mais vu que vous, je vous l'ai dit, c'est à budget nul, enfin à budget net, forcément, si vous donnez plus à certains, vous prenez à ceux, par exemple, qui ne peuvent pas reprendre le travail. Muriel Pucci a aussi épluché ce dossier, elle est chercheuse, et notamment associée à l'Observatoire français des conjectures économiques. Donc elle est économiste et elle abonde dans ce sens, en déplorant notamment que l'étude d'impact ne donne aucun détail précis qui permettrait de comprendre qui va gagner ou bien qui va perdre, avec certitude. La seule chose certaine, dit-elle, c'est que le gouvernement insiste sur sa volonté à ce que le travail rapporte toujours plus que les allocations diverses. Dans un contexte de tension budgétaire, cela signifie aussi, dit-elle, qu'il faut que le RSA ne soit pas trop élevé pour ceux qui ne travaillent pas, donc. Cet économiste sur la foi de l'étude d'impact donc, qui a été fournie par le ministère du Travail pointe notamment le fait qu'il y aura des perdants parmi les plus pauvres et des perdantes aussi, rappelons-le, parmi les plus pauvres qui sont dans les premiers et deuxièmes déciles. Ça, ce sont dans les déciles, vous savez, ce sont les petites cases dans lesquelles on se range selon nos revenus. Notamment, donc les premiers et deuxièmes déciles, ce sont les plus pauvres. Les calculs sur le RSA et la prime d'activité ne vont pas être trop modifiés, dit-elle, mais le curseur va sûrement bouger pour les APL. Or, il est très important de ne pas trop déstabiliser les aides au logement. Si celles-ci deviennent aussi instables que la prime d'activité, qui effectivement peut bouger d'un trimestre à l'autre, cela peut vraiment mettre des gens dans la difficulté de payer des loyers. À quelques semaines donc de l'examen de ce projet de loi, Le flou existe toujours et n'a pas été dissipé. Pourtant, justement, tous ces partenaires sociaux demandent plus d'informations. Et la discussion parlementaire qui s'annonce ne risque pas d'éclaircir davantage les choses, puisque les détails et les barèmes, je vous l'ai dit, seront précisés dans des décrets d'application. Et ces décrets d'application, eux, peuvent être pris dans plusieurs années, peut-être même dans 3 ans. Or, la loi, elle est pensée être votée là. En plus, vous le savez, il y a les présidentielles dans 1 an, donc beaucoup de flou aussi sur les décrets qui vont en suivre. La manière dont sont menées ces discussions et le calendrier électoral interpellent aussi donc Sophie Rigard, qui dit qu'il y a un problème démocratique aussi bien que politique dans ce projet, notamment face au fait que l'exécutif demande donc à l'Assemblée et aux acteurs impliqués d'endosser un projet, de signer un projet qui sera lui mis en œuvre seulement lors du prochain quinquennat. Elle dit qu'en gros, c'est comme si on signait un chèque en blanc pour le gagnant de la prochaine présidentielle, qui aura en effet un outil avec un seul robinet permettant d'augmenter ou de baisser les aides sociales, notamment qui touchent les plus pauvres. Tous les syndicats, toutes les associations de solidarité sont vent debout contre le projet et le gouvernement décide quand même qu'il s'agit d'une priorité à adopter rapidement. Il répond donc là à une demande de la droite et de l'extrême droite. Où est l'urgence, explique et gronde un responsable syndical de haut rang face à ce qui s'annonce tendu comme discussion. Un autre défait étonnant à noter aussi et relevé par Mediapart, c'est que si ce projet concerne, je vous l'ai expliqué, notamment pas mal les aides au logement, qui risquent d'être une grosse variable d'ajustement, eh bien le ministre du Logement, lui, n'est carrément pas convié à la table des discussions. Les acteurs associatifs témoignent d'un désaccord philosophique majeur face aux motivations du gouvernement sur ce point, puisque le gouvernement entend mettre en place la réforme avec une condition fondamentale. Et je vous l'ai dit, la philosophie, c'est de faire en sorte que le travail paye davantage que les prestations sociales. Mais c'est quoi le délire? Puisqu'en fait, à quel moment est-ce qu'on peut gagner plus en alloc qu'en allant travailler? C'est déjà le cas, d'ailleurs, rappelle la présidente du collectif Alerte. Et pourtant, ça reste, on le sait, un gros levier et un gros argumentaire utilisé, notamment pour stigmatiser ce qu'on appelle les assistés. Le gouvernement entend donc jouer sur un biais cognitif en faisant croire aux gens qu'aujourd'hui, les minima sociaux rapportent plus que le travail, dit-elle. Et un autre observateur juge aussi que la volonté politique de stratégie de lutte contre la pauvreté a cessé, donc il n'y a plus lutte contre la pauvreté, mais que celle-ci a laissé place à un discours de culpabilisation classique des pauvres. Et j'ai perdu mon truc. Ah oui, il est là.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Louis de Funès au micro, voilà, et puis on termine avec cet hommage, vous n'aurez pas pu le rater, tout le monde en parlait aujourd'hui, mort à plus de 80 ans, une légende de la politique s'est éteinte, je parle bien évidemment de Chuck Norris.
Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, attention où vous mettez les pieds.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Allez, je vous laisse avec un petit peu de musique quand même, on garde le moral. C'est un peu la sensation rock du moment. Ils viennent du Québec, ça s'appelle Angine de poitrine. Et visuellement, ça vaut vraiment le déplacement. Donc je vous laisse aller suivre ça. C'est de la musique assez bizarre, ils sont que deux. Allez, on se donne rendez-vous jeudi, ciao.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.